Chapitre 10. Bobby trouva Didi dans son bureau. Penchée sur son ordinateur, elle parcourait une liste de noms, un crayon à la main. Elle faisait défiler la liste tellement vite que Bobby se demandait sincèrement si elle pouvait lire quoi que ce soit. Elle voulait peut-être seulement avoir l'air occupée au cas où quelqu'un, lui par exemple, passerait par là. « Quoi ?» demanda-t-elle. « J'ai eu un coup de fil. » Elle interrompit sa lecture, se redressa, le regarda. « Je croyais que tu n'étais pas mon larbin. »«
Je croyais que tu étais mon ami. » »«
Oh, Bobby, quel con !» L'insulte le fit sourire. « Je n'avais jamais réalisé jusqu'à maintenant à quel point tu me manquais. Je peux entrer ou il faut que je revienne avec des roses ?»«
Je m'en fous des roses, » dit-elle.
« Je veux toujours un bon sandwich au rosbif. »
Mais sa voix avait perdu de son tranchant. Elle désigna le siège vide en face d'elle. Prenant cela comme une invitation, il s'affala dans le fauteuil de direction à haut dossier. Didi s'éloigna de l'ordinateur. Elle avait vraiment une mine de déterrée, des cernes violets sous les yeux, les ongles rongés jusqu'au sang. Quand elle se verrait à la télé, ça la foutrait en rogne.
« J'ai le bon souvenir de Catherine ?» demanda-t-elle goguenarde.
Elle ne l'a pas dit comme ça, mais je suis sûre que pendant toute notre conversation, elle n'a pas cessé de penser à sa passion pour la police de Boston.
Alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
Une seconde.
Étonnement.
Une seconde?
J'ai d'autres choses à te raconter d'abord.
Allez, Didi, laisse-moi respirer. Avec les horaires qu'on fait, des préliminaires ne seraient pas de trop.
Les coins de la bouche de Didi se contractèrent en un sourire inattendu. Un instant, Bobby se surprit à repenser au bon vieux temps, en particulier le domaine dans lequel il s'entendait bien. Il se ressaisit, se redressa rapidement, feuilleta son carnet à spirale.
« J'ai, fait des recherches sur Russell Granger, commencé à vérifier l'histoire d'Annabelle. »
Le sourire de Didi s'effaça. Elle soupira, se pencha en avant pour poser ses coudes sur ses genoux. Retour au boulot.
« Est-ce que ça va me plaire ?»
Plus important, est-ce que je vais pouvoir m'en servir pour la conférence de presse?
Possible.
Donc, Russell Granger a porté plainte en août 82, une des trois plaintes qu'il allait déposer avant le mois d'octobre. La première pour violation de domicile. Granger avait entendu du bruit dans son jardin au milieu de la nuit. Il est sorti lui-même, a juré qu'il avait entendu quelqu'un s'enfuir. Quand il a vérifié le lendemain matin, il a vu des empreintes de pas boueuses dans tout le périmètre. Des agents y sont allés, ont pris note de son histoire, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Pas de vrai délit, pas de signalement de l'individu. Plainte classée. Rappelez-nous s'il y a quoi que ce soit, Monsieur Granger. Et voilà tout. La deuxième plainte, le 8 septembre, concernait un voyeur. C'est encore Monsieur Granger qui a appelé. Mais pour le compte de sa voisine âgée, Géraldine Watts, qui jurait avoir vu un jeune homme rôder autour de la maison des Granger et regarder par une fenêtre. Deux agents en tenue furent à nouveau dépêchés, Stan Jezukiewicz et Dan Davis, plus connus sous le petit nom de Stan and Dan. Ils ont interrogé Madame Watts, qui a fourni une description d'un individu blanc, entre 1m75 et 1m85, cheveux sombres, allure négligée, jean et t-shirt gris. Elle n'a jamais pu voir son visage. Au moment où elle décrochait son téléphone pour appeler Monsieur Granger, le type a détalé dans la rue.
Où habitait Madame Watts?
En face de chez les Granger. Le truc, c'est que la fenêtre devant laquelle rôdait l'inconnu était celle de la fille des Granger, Annabelle, 7 ans. À ce moment-là, d'après Stan and Dan, Monsieur Granger s'est mis dans tous ses états. Il s'est avéré qu'au cours des derniers mois, des petits cadeaux s'étaient matérialisés devant sa porte. Une fois un cheval en plastique, une fois une balle rebondissante jaune, une fois une bille bleue. Des trucs de gosse, tu vois. Monsieur Granger et sa femme avaient pensé qu'un des gamins du quartier avait le béguin pour Annabelle, qu'elle avait un admirateur secret.
« Oh merde !» dit Didi. Le médaillon.
Emballé dans une BD de Snoopy, c'est bien ce qu'a dit Annabelle.
Ouais, Stan and Dan comprennent sans qu'on leur fasse de dessin, et avec Granger à leur basque, commencent à faire le tour du voisinage. Plein de gamins, mais aucun ne comprend ce dont Monsieur Granger veut parler. Il s'énerve, convaincu que le voyeur est bel et bien l'admirateur secret, ce qui signifie qu'un adulte épie sa fille. Il exige une protection policière immédiate, toutes sortes de choses. Stan and Dan le raisonne, toujours pas de délit, tu vois. Et peut-être qu'en réalité, l'admirateur secret est un camarade de classe d'Annabelle. Ils promettent de vérifier. Stan and Dan s'en vont, rédigent leur rapport, Il est transmis pour info à un enquêteur, mais une fois encore, où est le délit? Stan et Dan sont consciencieux pour être juste. Ils poursuivent l'enquête à l'école et obtiennent que le directeur parle aux camarades de classe d'Annabelle. Malheureusement, ces interrogatoires ne débouchent sur aucune piste. Si l'admirateur secret est dans la classe d'Annabelle, le gosse est trop intimidé pour avouer. L'information est versée au dossier et l'affaire languit. Que faire? Il est noté que M. Granger a encore appelé plusieurs fois pour exiger des réponses, mais personne n'avait grand-chose à lui dire. Qu'il ouvre l'œil, qu'il les rappelle s'il y avait le moindre problème, etc. 19 octobre, 23h05, M. Granger appelle le central de police en demandant une assistance immédiate. Il y a un intrus chez lui. Le central envoie 4 véhicules dans le quartier. Stan et Dan entendent ça à la radio et rappliquent à fond de train, inquiets pour la famille. J'imagine que c'est un peu l'état de crise quand ils arrivent. Granger est sur le pas de sa porte, en pyjama, en train de brandir une batte de baseball. Il manque de se faire descendre par les premiers intervenants avant que Stan et Dan ne tirent l'affaire au clair. Dan note dans son rapport que Granger n'a pas l'air trop en forme ces derniers temps. À cran, hyper tendu. Apparemment, il ne dort pas beaucoup. Depuis le dernier incident, il a veillé presque toutes les nuits pour monter la garde. Il apparaît également que M. Granger a légèrement menti. Pressé de questions, il avoue que personne n'est vraiment entré dans sa maison. En fait, il a une nouvelle fois entendu du bruit dehors, mais comme il a pensé que la police ne prendrait pas ça suffisamment au sérieux, il a enjolivé son histoire. La plupart des agents n'apprécient pas trop, mais une fois encore, Stan et Dan se sentent une obligation. Ils font le tour du jardin, cherchent des traces suspectes. Ils remarquent que le paysage a un peu changé. Monsieur Granger a arraché les buissons près de sa maison, abattu 2 arbres. Le jardin est pratiquement rasé maintenant, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Ils pensent tous les deux que c'est un peu de la paranoïa, jusqu'au moment où ils arrivent à la fenêtre d'Annabelle. Le bois sous le châssis est profondément entaillé. Des marques d'outils récentes, le genre que ferait un pied de biche. Quelqu'un avait essayé de la forcer. « Mais Annabelle va bien ?» intervint Didi avec étonnement. « Parfaitement bien. Elle ne dort plus dans sa chambre. En fait, M. Granger et sa femme avaient déjà pris la décision de la transférer dans leur chambre après l'histoire du voyeur. » Lors de ces 3 incidents, la gamine n'a rien entendu. Quant à la femme, je ne sais pas. Les agents ne l'ont jamais interrogée. Apparemment, c'était M. Granger qui tenait le crachoir. Madame Granger était toujours dans la maison avec Annabelle. Didi leva les yeux au ciel. Il lisait dans ses pensées. Enquête bâclée. Il aurait fallu interroger les 2 époux séparément et la gamine de 7 ans aussi. Mais 25 ans après, que pouvait-on y faire? « Vu les traces d'outils, continua Bobby, Stan et Dan mènent une enquête au porte-à-porte dans le quartier. Quand ils arrivent chez Madame Watts, la dame qui avait signalé le voyeur, elle paraît très agitée. On apprend qu'elle ne dort pas bien ces temps-ci, les souris font trop de bruit dans le grenier. »«
Les souris ?»«
C'est bien aussi ce que pensent Stan et Dan. Ils montent 4 à 4 et dans le grenier, ils découvrent un squat. » Un sac de couchage usagé, une lampe de poche, un ouvre-boîte, des bouteilles d'eau et, écoute ça, un seau en plastique vide de 15 litres qui a de toute évidence servi de latrine. Par pitié, dis-moi que ce seau en plastique se trouve parmi les pièces à conviction.
Tu rêves. Ils ont quand même essayé de relever les empreintes, note bien, donc on en aurait un double dans le dossier. Sauf qu'il n'y avait pas d'empreintes.
Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé correctement dans cette enquête?
Non, ça a été la merde de bout en bout. Évidemment, Madame Watts est hystérique maintenant. On dirait bien que quelqu'un a habité dans son grenier. Mais ce n'est rien comparé à Russell Granger, qui exige pratiquement qu'on déploie la garde nationale rien que pour les protéger, lui et sa famille. Ça ne s'arrange pas quand les enquêteurs commencent à inspecter le squat et découvrent toute une pile de polaroïdes. Annabelle sur le chemin de l'école, Annabelle dans la cour de récré, Annabelle qui joue à la marelle avec sa meilleure amie, Dori Petracelli.
Didi ferma les yeux. « Ok. » Abrège. Bobby haussa les épaules.
La police ne pouvait rien faire. On n'avait aucune description du type, et pour ce qui était d'Annabelle, il n'y avait pas de délit. On est en 82, avant les lois anti-pédophiles. Il retourne à l'école d'Annabelle, interroge les chauffeurs de car, les gardiens, les instituteurs, tous ceux qui sont entrés en contact avec Annabelle et ont donc pu s'attacher à elle. Ils analysent la scène chez Madame Watts. Le premier examen des indices ne fournit pas d'empreintes, ne donne pas grand-chose d'ailleurs. Les enquêteurs se plient en 4 pour retrouver un clochard pédophile qui aime épier les petites filles et vivre dans les greniers des vieilles dames. Ils vont dans les établissements psychiatriques, les soupes populaires, font le tour d'horizon classique des pervers. Tout reposait sur la connaissance du terrain à l'époque, mais ça ne les mène nulle part. Pendant ce temps-là, Granger pète les plombs, accuse les flics de s'en foutre, accuse les voisins d'héberger sciemment des pervers, accuse le procureur d'être l'unique responsable du futur meurtre de leur fille de 7 ans. Et un jour, les flics se pointent chez les Granger pour suivre le dossier, mais il n'y a plus personne. Une semaine plus tard, le procureur reçoit un coup de fil de M. Granger qui lui annonce que, puisque l'État du Massachusetts s'est refusé à protéger sa fille, il a déménagé. Il raccroche avant que quiconque puisse lui poser des questions, et voilà. Le commissariat renforce les patrouilles dans le secteur pendant une ou deux semaines, mais plus rien n'est vu ni signalé. Et l'affaire meurt de sa belle mort, comme ça arrive dans ces cas-là. Attends une seconde. Mais où est passée encore cette foutue liste ? Ok, d'après ce qu'on a appris aujourd'hui, Dori Petracelli a disparu le 12 novembre, à peine quelques semaines après tous ces incidents. Ça n'a fait tiquer personne ? Dori n'a pas disparu de chez elle. Elle s'est volatilisée pendant une visite chez ses grands-parents à Lawrence. Autre circonscription, autre circonstance. Il semble que le commissariat de Lawrence ait demandé copie du rapport de police sur l'inconnu de Geraldine Watts, mais ça n'a rien donné. Rappelle-toi, pas d'empreinte, pas de signalement précis dans le dossier. Je pense que Lawrence a dû jeter un rapide coup d'œil aux incidents chez les Granger, et que quand ils ont vu qu'il n'y avait rien de solide sur quoi s'appuyer, ils se sont concentrés sur leur propre affaire. Didi se cala dans son fauteuil. Merde. Tu penses qu'Annabelle était la vraie cible et Dori le lot de consolation ? Quelque chose de ce genre. Et en quoi ça nous avance ? On a appris quelques trucs en 25 ans. Écoute. Bobby s'adossa dans son siège, les mains derrière la tête. Je ne veux pas critiquer Stan et Dan. J'ai lu tous leurs rapports et ils ont consacré plus de temps à M. Granger que beaucoup d'autres ne l'auraient fait. Mais je crois que ce qui leur a manqué, c'est qu'ils n'étaient pas chasseurs. Quand ils sont montés dans ce grenier, ils ont vu un squat. Une fois que c'était baptisé comme ça, tout le monde voyait aussi un squat, et cette idée, associée à la description d'un type négligé, a lancé tous les enquêteurs sur une piste donnée. C'est une des raisons pour lesquelles cette affaire ne semblait pas solidement rattachée à celle de Dori Petracelli. D'après les témoignages, le ravisseur de Dori conduisait une camionnette blanche. Or, personne n'imaginait que le voyeur de la rue d'Annabelle pouvait posséder un véhicule, disposer de ce genre de moyens. Il cherchait un sans-abri, un déséquilibré. Exactement. Mais quand je regarde la scène du grenier, je ne vois pas un clochard en quête d'un abri. Du point de vue du tireur embusqué, c'est un affût. Imagine le poste d'observation. Troisième étage, pile en face de la cible. Le type a un toit au-dessus de la tête, un sac de couchage pour le confort, de quoi manger en cas de petite faim, et un seau pour ses besoins naturels. C'est idéal. Chasser consiste essentiellement à attendre. Ce type avait parfaitement monté son coup pour attendre très longtemps. « Préméditation, » souffla Didi. « Calcul, » précisa Bobby. « Intelligent. » Ce type, notre voyeur, n'en était pas à son premier coup. « Peut-être à son sixième ?»« Oui, » acquiesça doucement Bobby. « Peut-être. » « Je te fiche mon billet qu'Annabelle était la cible d'un pédophile chevronné qui avait probablement déjà enlevé au moins une petite fille. » Et si son père ne s'était pas montré un tel emmerdeur paranoïaque, ce serait le cadavre d'Annabelle là-bas dans cette fosse, pas celui de Dori Petracelli. Annabelle Granger est partie. Dori n'a pas eu cette chance. Didi se passa la main sur le visage. On est sûr que c'était bien en 82 ? Absolument, positivement, aucune possibilité que tous les enquêteurs jusqu'au dernier se soient trompés de date ? C'était en 82. Et tu es certain ? Absolument, positivement certain que Richard Umbrio était déjà incarcéré à Walpole à cette époque. Ouais. La date figure aussi sur plusieurs rapports. Le voyeur n'était pas Umbrio, Didi. Même pas besoin de comparer les dates. Regarde le mode opératoire. Umbrio était un prédateur opportuniste. Il saisissait l'occasion. Hey, mignonne, tu n'aurais pas vu mon chien perdu ? Là, c'est beaucoup plus élaboré, presque ritualisé. On a affaire à une toute autre espèce de cinglé. « Mais l'utilisation d'une cavité souterraine !» bondit Didi. « La ressemblance physique entre Annabelle Granger et Catherine Gagnon, tu ne vas pas me dire que c'est une pure coïncidence !»«
Il y a d'autres possibilités. À commencer par l'imitation. En août 82, le procès d'Umbrio est terminé depuis longtemps, les circonstances de l'enlèvement rendues publiques.
Ça a peut-être inspiré quelqu'un.
Mais les photos des victimes, en particulier des enfants, ne sont pas publiées, répliqua Didi. Alors encore une fois, comment expliquer la ressemblance physique entre Annabelle et Catherine ?
Les photos ne sont pas publiées pendant le procès, mais le signalement de Catherine a certainement été diffusé quand elle a été portée disparue. Et ses recherches ont duré 4 semaines.
Didi se mordit à la lèvre inférieure, considéra cette information. Bobby décroisa les mains.
Umbrio n'était pas un bavard. Il n'a jamais donné à la police aucun renseignement sur ce qu'il avait fait, même après avoir été découvert. Alors il faut bien envisager l'hypothèse qu'il ait pu faire d'autres victimes, et ou qu'il se soit fait aider.
Un complice qui n'aurait pas été identifié ?
Oui. Umbrio avait à peine 20 ans quand il a été condamné. C'était presque encore lui-même un gamin. Quelquefois, de jeunes mal dans leur peau.
Klebold et Harris à Columbine.
Ça arrive. Pour finir, je me pose la question des compagnons de cellule et des correspondants de prison. Les pédophiles semblent avoir un don pour tisser des réseaux. Songe seulement à tous les groupes Internet et réseaux internationaux d'esclavagisme sexuel découverts ces dernières années. Plus que les autres meurtriers psychopathes, les pédophiles aiment papoter. Or, Umbrio est allé en prison avec une réputation de délinquant assez brillant, à défaut d'être créatif. Peut-être que quelqu'un est allé le chercher là-bas.
Bien. De mieux en mieux, cette histoire, dit Didi en lui lançant un regard noir. Je croyais que tu avais quelque chose pour ma conférence de presse. Tu veux me dire ce que je peux raconter aux journalistes ?
Bobby l'arrêta d'un signe de la main. Dernier élément à prendre en compte. Ce n'est pas scientifique, mais on ne peut pas l'écarter. L'instinct policier. Tu l'as senti dès que tu es entré dans la cavité. Moi aussi. Il y a forcément un lien entre l'affaire Catherine Gagnon et ce qui s'est passé à Matapane. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le saisir ni le goûter, mais je sais que c'est vrai et toi aussi. C'est pour ça que le coup de fil de Catherine a tellement d'importance.
Didi tendit soudain l'oreille. Elle semblait presque folle d'espoir. Catherine revient dans le Massachusetts. Elle va nous parler. Elle va enfin nous laisser l'arrêter pour avoir organisé l'assassinat de son mari.
Pas tout à fait. À la question de son retour dans le Massachusetts, elle répond que ce n'est pas dans l'ordre du possible, comme on dit. C'est nous qui allons la voir.
Ben voyons, 2 enquêteurs dans un avion pour l'Arizona. Les patrons vont adorer.
Oh, mais oui, dit-il en jouant du sourcil. Quand tu auras expliqué à la presse que tu as déjà fait une avancée majeure dans l'enquête et que tu interrogeras bientôt non pas 1, mais 2 témoins potentiels.
Bobby se leva et se dirigea vers la porte. C'était le moment de s'éclipser en douceur. Malheureusement, il ne fut pas tout à fait assez rapide.
« Comment ça, 2 témoins ?» le rappela Didi. « Catherine Gagnon est toute seule ?»«
Oh, je ne t'ai pas dit. » »«
Je parlais de Granger. » En contrepartie de sa coopération, Catherine exige de rencontrer Annabelle. »